Le crime de X par René Pujol. Eh bien, c'est fini, n'est-ce pas? On va le libérer tout de suite. J'étais si là, si épuisé par la pénible et longue scène qui venait de se dérouler dans le cabinet du juge d'instruction, qu'en guise de réponse, je ne pus que secouer tristement la tête. Gilberte, d'une pâleur tragique, me saisit le poignet avec tant de force que ses doigts s'incrustaient douloureusement dans la chair. « Ce n'est pas possible, on ne peut pas le garder puisqu'il est innocent, vous savez bien qu'il n'a pas tué. » Elle parlait avec tant de véhémence que des curieux s'arrêtaient déjà près de nous. Sa mère et moi, nous essayâmes de l'entraîner, mais elle résistait avec une force incroyable. « Non, non, il va sortir, je veux le voir, l'embrasser, lui crier ma confiance. » Une crise de larmes la suffoqua brusquement. Il ne fut plus qu'une pauvre créature défaillante que nous conduisîmes vers le boulevard du Palais où nous attendait l'auto de Madame Gardin. Tout en roulant dans le tumulte de Paris, je contemplais avec pitié ces deux femmes, l'une indécise, anxieuse, l'autre désespérée. Quelques heures avaient suffi pour ruiner le bonheur de Gilberte. Quand elle s'était fiancée à mon associé Roger Renaud, nos affaires allaient assez mal, mais rien ne faisait prévoir notre débâcle prochaine. La crise économique nous avait si durement éprouvés que nous étions à la veille de déposer notre bilan. D'ailleurs, cela n'avait pour nous qu'une importance relative. Notre déconfiture n'atteignait pas notre honneur, nous avions l'intention de payer intégralement nos créanciers, et notre jeunesse nous permettait d'espérer un prompt rétablissement. La longue liste des faillites et des liquidations judiciaires publiées chaque matin dans les journaux prouvait que nous n'étions pas les seuls à souffrir du malaise commercial. Toutefois, nous étions trop orgueilleux, Roger et moi, pour nous avouer vaincus sans lutte. Nous nous battions avec d'autant plus d'énergie que Madame Gardin ne consentirait au mariage de Gilberte que sous certaines conditions de sécurité matérielle. Roger avait une tante, Madame Weber, assez riche pour nous tirer d'embarras, mais elle était vieille, revêche, avare, et rechignait à donner le million qui nous eût sauvés. Roger allait la supplier plusieurs fois par semaine sans parvenir à la convaincre. Et le drame avait éclaté comme un coup de foudre. Madame Weber avait été assassinée chez elle, on l'avait trouvée morte dans son salon, foudroyée par une balle de Browning à la tempe. Nul désordre dans l'appartement, nulle serrure forcée. Comme la victime était extrêmement méfiante, il fallait admettre qu'elle connaissait fort bien son meurtrier. Sinon, elle ne lui aurait pas permis d'entrer, car une fois ses domestiques partis, elle n'ouvrait jamais sans questionner le visiteur à travers la porte. En tombant, Madame Weber avait brisé la montre attachée à son poignet. On savait ainsi que le crime avait été commis à 8h37. Une rapide enquête révéla que Madame Weber avait, le jour même, retirer un million de son compte en banque. Ce million avait disparu. Les soupçons s'étaient aussitôt portés sur Roger Renaud. Mon associé ne s'en était d'abord guère ému, mais les événements avaient rapidement sapé son optimisme. Le commissaire de police avait trouvé un Browning dans un tiroir du bureau de Roger. Ce dernier avait reconnu sans difficulté que l'arme lui appartenait et qu'elle était là depuis longtemps. « Quand vous en êtes-vous servi ?» avait demandé le magistrat. « Jamais. » Or, une balle manquait dans le chargeur, une seule, celle qui avait tué Madame Weber. À voix basse, car Gilberte se reposait dans la pièce voisine, nous causions, Madame Gardin et moi. J'achevais le récit de la confrontation dans le cabinet du juge. Roger, expliquai-je, semblait sûr de lui. Il voulut, dès son entrée, s'approcher de moi pour me serrer la main, mais on l'en empêcha. Et tout de suite commença un interrogatoire que je rapporte fidèlement. Renaud, dit le juge. « Où étiez-vous le 27 avril à 8h30 ?»« Chez mon associé, ici présent, » répondit Roger d'une voix ferme. Je sursautais, mais le juge ne me laissa pas le temps de parler. « Monsieur Mercier vient de me déclarer qu'il ne vous avait pas vu ce soir-là. « Permettez, » fis-je, « mes souvenirs ne sont peut-être pas très précis. »« Monsieur, » reprit sévèrement le juge, « ne prenez la parole que lorsque je vous la donnerai. » Le sang battait si fort à mes tempes que j'eus peur de m'évanouir. J'entendis Roger comme dans un rêve. « Voyons, Charles, rappelle-toi. Tu m'as téléphoné de venir chez toi. Nous avons discuté du baron de La Rochelle. Je t'ai quitté vers 9h-15. »« Qui vous a ouvert la porte ?» interrompit le juge. « Charles lui-même. Pourquoi pas sa bonne ? Il paraît qu'elle était au cinéma. » Je voulus de nouveau intervenir, mais d'un geste impérieux, le juge m'imposa silence. « Renaud, dit-il, vous feriez mieux d'avouer. Votre alibi ne tient pas debout et vous vous défendez très mal. » Vous prétendez n'avoir jamais utilisé votre revolver et l'expert a prouvé le contraire. L'avocat de Roger suggéra. Quelqu'un a pu se servir du Browning, puis le remettre à sa place. Supposition invraisemblable, poursuivit le juge. Je continue ma démonstration. Renaud affirme qu'au moment du meurtre, il se trouvait chez M. Charles Mercier. « Je le jure !» s'écria Roger. « Vous mentez !» riposta durement le juge. « J'ai vérifié la déposition de M. Mercier. Ce soir-là, il est rentré chez lui qu'à minuit. « Charles !» s'écria nouveau Roger. Je baissai la tête sans répondre. J'étais accablé. Ignorant ce qu'avait d'abord raconté Roger, j'avais donné au juge, minutieusement, l'emploi de la soirée tragique. Vers 8h15, j'étais arrivé au restaurant Bléfour, où j'avais retenu un cabinet particulier. J'avais été reçu par le maître d'hôtel Alfred, qui m'avait lui-même introduit dans le salon réservé. Alfred connaît mes habitudes, et la dame avec qui je dîne parfois en tête-à-tête. Mariée, elle est tenue à la discrétion, et le processus de nos rencontres est invariable. J'arrive le premier, j'établis le menu, on sert le dîner sur des réchauds, et nul ne me dérange plus sous aucun prétexte. La dame arrive 20 minutes ou 1/2 heure après moi, se rend directement au salon dont elle connaît le numéro et nous nous enfermons. Vers 11h30, la dame s'en va aussi furtivement qu'elle est arrivée. Je sonne alors pour payer l'addition. Les choses se sont passées de la sorte le soir du crime. Alfred a rencontré la dame à la seconde même où elle pénétrait dans le cabinet 17, et c'est à lui que j'ai réglé l'addition un peu avant minuit. En écoutant la lecture de ma déposition, Roger devenait encore plus blême. Il se tourna vers moi quand le greffier eut terminé. « C'est toi qui as dicté cela, Charles ?»«
Mais oui, »
balbutiai-je. « Et tu maintiens ta déclaration ?» Mon silence l'exaspéra au point qu'il faillit se jeter sur moi. Je jugeais superflu de dire à Mme Gardin que Roger m'avait atrocement insulté, jusqu'à me traiter d'assassin. Je n'ai jamais vécu de plus atroces minutes que dans le cabinet de ce juge d'instruction. « Mais alors, » murmura Mme Gardin, « que faut-il conclure ?» Elle le savait comme moi. Mais nous n'osions formuler notre conviction. La culpabilité de Roger ne pouvait plus faire aucun doute. Il avait assassiné Madame Bébor pour s'emparer de son million. Nos pensées étaient tellement identiques que je ne fus nullement surpris d'entendre Madame Gardin me demander « Où a-t-il mis l'argent ?» Je l'ignore. L'arrestation de Roger avait hâté la débâcle. Notre maison était en liquidation judiciaire et j'étais trop bouleversé pour songer aux affaires. « Si j'avais pu deviner sa tactique, soupirai-je, j'aurais menti au juge. » Madame Gardin s'indigna. « Vous auriez sauvé un assassin ? Peut-être. »« Vous ne pensez pas ce que vous dites. Je l'aime comme un frère. » Balbutiai-je en excuse. « Ce n'est pas une raison pour empêcher qu'il soit châtié comme il le mérite. »« Madame, il ne faut pas accabler Roger. » Exaspéré par l'obstination de sa tante, il a eu un geste de fou, mais... « Mais ? Achevé ? » ?»« Je ne sais comment m'expliquer. Il me semble qu'on peut tuer et rester un honnête homme. » Quand le vol est le mobile du crime, quand on ne consent pas à avouer ce crime, vous ne pouvez pas défendre Roger, c'est le pire des bandits. Oh, madame, protestai-je, quand je pense que j'ai failli donner ma fille à un monstre pareil. Un gémissement nous fit sursauter, Gilberte était derrière nous, debout dans l'embrasure. Elle s'était levée silencieusement et avait entendu la dernière partie de notre conversation. J'aime toujours celui que tu qualifies de monstre, dit la jeune fille. Ne t'exalte pas. Répondit Madame Gardin. « Tu n'es pas en état de réfléchir, nous verrons plus tard. »« Mon cœur ne changera pas, » ajouta Gilberte. « J'appartiens à Roger parce qu'il n'a pas démérité. »« C'est lui, l'assassin. Ce n'est pas lui. Ses mensonges équivalent à un aveu. »« Non, maman, » s'obstina Gilberte. « Les apparences sont contre lui, mais je suis certaine de son innocence. N'est-ce pas, Charles ?»«
Il est sûrement condamné, »
fis-je.
« Il ne faut pas qu'il le soit. » »«
Comment faire pour cela ?» Je me charge de confondre le coupable.
Quel coupable ?
Demanda Madame Gardin. Tu en parles comme si tu le connaissais. Et la jeune fille répliqua. Oui, maman, je le connais.
Qui est-ce ?
M'écriai-je alors. Gilberte hésita, ses lèvres s'entr'ouvrirent pour prononcer un nom. Mais elle se ravisa et sortit sans rien dire. 15 jours s'écoulèrent, dramatiques, terribles à vivre pour nous tous. Je fus remis 2 fois en présence de Roger, qui continua à m'accuser de félonie. Sa haine contre moi s'exaspérait tellement qu'il pouvait à peine parler. Pourtant, que pouvais-je faire pour lui ? Je n'allais plus chez Madame Gardin que lorsqu'on me le demandait. Je comprenais que Gilberte partageait à mon égard les sentiments de Roger. Quant à sa mère, elle était froide, réservée, et devant ces 2 femmes, je ne savais quelle contenance garder. Mercredi après-midi, j'éprouvais l'immense surprise de voir Gilberte entrer chez moi. Depuis le drame, elle n'y était jamais revenue. « Vous êtes seule ? » m'étonnai-je. « Toute seule, » répondit-elle.
Elle avait un air étrange, presque inquiétant, et son regard était celui d'une hallucinée. Malgré cela, elle s'exprimait avec calme et netteté. Je m'empressai de lui offrir un fauteuil, je m'assis devant elle et j'attendis. « Votre bonne a-t-elle un manteau gris ? » dit-elle. Cette question saugrenue me fit hausser les sourcils. « Que me demandez-vous ? » ?»« Si votre bonne a un manteau gris ? » insista Gilberte. « Je n'ai jamais inspecté son vestiaire. »« Eh bien oui, elle a un manteau gris. » Alors Charles, vous êtes un misérable, un lâche, un assassin. Gilberte, m'exclamai-je. Elle pointa vers moi un doigt frémissant. C'est vous l'assassin. J'ai par bonheur beaucoup de sang-froid, et cette accusation ne me démonta point. Vous divaguez, Gilberte. Ne riez pas plus longtemps, je sais tout. Je haussai les épaules. Cet ennemi ne m'effrayait pas, je me sentais de taille à me défendre. Je vous écoute, dis-je, et Gilberte parla. Vous avez admirablement préparé et exécuté votre forfait, mais une femme qui aime est capable de tous les prodiges. Charles, votre infamie. J'interrompis mon accusatrice. Gilberte, à quoi bon m'insulter? Contentez-vous de me raconter mon prétendu forfait. Vous avez raison, reprit Gilberte. Il me suffit de vous avoir confondu. Oh, confondu. De la façon la plus irréfutable. Il me fit le récit du crime avec une intelligence vraiment stupéfiante. Vous, Roger, vous mentiez. Naturellement, j'ai pensé que le traître c'était vous et que l'alibi de Roger était exact. Il n'y avait cependant aucun trou dans votre déposition. Au moment de l'assassinat, vous étiez au restaurant et non chez vous, où mon fiancé prétendait avoir passé une demi-heure. J'ai interrogé le maître d'hôtel Alfred. Dès la première phrase, j'ai compris que c'était un homme de bonne foi et non un complice. Il vous a vu entrer, il a vu une dame vous rejoindre, puis il vous a vu sortir. Mais il n'a pas vu sortir la dame. Mieux que cela, cette dame, qui est venue plusieurs fois, il ne l'a jamais vue sortir. C'est normal puisqu'elle n'existe pas. Gilberte me fixait droit dans les yeux, mais pas un muscle de mon visage ne bougeait. Cette mystérieuse femme, dit Gilberte, portait invariablement un chapeau gris, un chapeau enfoncé jusqu'aux yeux et une épaisse boilette. Voilà tout ce que j'ai su au départ. Le reste, je l'ai imaginé. Dans ces aventures-là, ripostai-je avec ironie. Il faut se défier de l'imagination. C'est ce que j'ai fait, approuva Gilberte, et c'est pourquoi je n'ai pas parlé plus tôt. J'ai appris que depuis quelque temps seulement, vous offriez souvent le cinéma à votre bonne. Ces soirs-là, la dame au manteau gris vous rejoignait au restaurant. Vous avez prémédité votre crime avec une patience incroyable. Mais vous ne me dites pas comment je l'ai commis. J'y arrive. Acculé à la ruine, vous vouliez à tout prix de l'argent. Il vous en faut, car vous êtes paresseux et incapable d'en gagner. Merci, dis-je. Vous poussez Roger à s'adresser à sa tante et vous suivez de près les négociations. Pendant ce temps, vous jouez la comédie du restaurant. Vous retenez ostensiblement un cabinet particulier, toujours le même, car vous aurez besoin plus tard de faire appel à la mémoire d'Alfred. C'est chaque fois le même processus. Vous entrez seul. Alfred sert le repas et s'en va. Vous vous esquivez vivement en profitant d'une absence du maître d'hôtel. Vous allez revêtir la défroque de votre bonne, toujours la même, et vous revenez au restaurant en ayant soin de vous montrer un peu, pas trop. Alfred est discret par profession. Il n'observe pas très attentivement ses clientes. Il remarque pourtant que votre visiteuse n'est guère élégante et qu'elle a la démarche très lourde. Vous apprenez que la tante est prête à donner 1 million à son neveu. L'instant fatal est arrivé. Vous téléphonez à Roger qu'il se rende chez vous. Vous faites une première apparition au restaurant, vous courez ensuite à votre domicile où vous rencontrez Roger. Bien entendu, votre bonne est au cinéma. Vous filez chez la tante et vous la tuez. Il est près de 9 heures car vous avez attendu le départ des domestiques. Mais vous retardez la montre de la victime et vous la brisez. Enfin, vous endossez le manteau gris et vous regagnez le restaurant. Vous rentrez chez vous avant minuit comme d'habitude, c'est-à-dire avant le retour de votre domestique. Ainsi, Roger est perdu. Quand il invoquera son alibi, il vous suffira de dire qu'il ment. Vous seul pouvez le sauver, et c'est justement vous qui vous acharnez à sa perte. Vous avez tout calculé, tout prévu, et c'est avec son propre revolver que vous avez tué. Sans le manteau gris, vous jouissiez à jamais de l'impunité. « Oh !» répondis-je avec flegme, « le manteau gris ne m'inquiète pas beaucoup. C'est possible, mais le juge vous demandera le nom de la dame du restaurant. Je ne puis le dévoiler, vous savez pourquoi. Ses discrétions vous honorent. Mais elle vous fera condamner. » J'eus un petit sourire. Ce n'est pas encore fait, ma belle. Mais vous êtes-vous demandé pourquoi je tenais tant à faire converger les soupçons sur Roger? Oui, et je n'ai trouvé aucun motif. Il y en a un, pourtant. Lequel? Je vous aime, Gilberte. J'ai donc tout fait pour me débarrasser de mon rival. J'espérais qu'un jour vous deviendriez ma femme.
Quelle horreur!
Oh, maintenant je renonce à mon rêve. Adieu, Gilberte. Mon million me permettra de vivre à peu près confortablement. Qu'allez-vous faire?
La seule chose sensée, fuir.
Mais j'avais compté sans cette diablesse de fille. Elle avait amené deux inspecteurs qui me terrassèrent à l'improviste, et c'est dans ma cellule que j'écris cette histoire qui prouve que malgré les plus subtiles précautions, le vice est parfois mal récompensé. Ainsi s'achève le crime de X par René Pujol.